RTS La Première présente Mystifica Science, saison 2. Un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques. Avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
Au début du XXe siècle, sous nos latitudes, on ne mangeait pas de yogourt. Voici l'histoire d'un grand scientifique qui, en toute bonne foi, allait inventer un mythe qui lui-même allait changer nos habitudes alimentaires. L'agente Leslie nous plonge dans le dossier yogourt.
Déjà un mot justement sur le mot yogurt. On le dit comme ça en anglais et en allemand. Mais comme vous le savez, en français, ça dépend des régions. Mm-hmm. En Belgique, en Suisse et au Canada francophone, on parle de yogurt, alors qu'en France, on parle de yaourt. Ce qu'il y a de drôle, c'est que tous ces mots ont la même source, le turc. En turc, on écrit le mot yogurt, mais on le prononce yaourt, donc plus proche de yaourt. Tout ça pour dire que cette nouvelle habitude alimentaire a dû être nommée au début du XXe siècle et ça s'est fait très rapidement.
Et alors, pourquoi ça s'est fait rapidement?
Mais parce que la mode est partie d'un coup dans tous nos pays. En 1900, personne n'en mangeait. 50 ans plus tard, rares étaient ceux qui n'en mangeaient pas.
Et pourtant, le yogourt n'est pas un nouvel aliment à proprement parler.
True. Les pyramides sont beaucoup plus récentes que les yogourts. On sait qu'au début du néolithique, soit il y a environ 10 000 ans, les premiers éleveurs se sont aperçus que le lait fermentait spontanément et que c'était, dans le fond, assez pratique, parce qu'il restait comestible et devenait même plus digeste. Il se conservait et pouvait être même transporté. Mais en Europe occidentale, allez savoir pourquoi, cette habitude s'est totalement perdue ou elle n'a jamais été prise. Certains éléments historiques nous prouvent que le yogourt n'existait pas chez nous. Il y en a un qui est amusant. En 1542, le roi de France, François Ier, souffrait de problèmes digestifs.
Ah, le pauvre homme.
Non. Eh bien, il fut guéri par un médecin turc, envoyé par Soliman le Magnifique. Apparemment, le médecin utilisait une préparation à base de lait de brebis fermenté.
Moi, c'est ce que j'appelle un yogourt grec.
Un yogourt ottoman, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, le médecin, après avoir soigné le roi, repartit avec son remède miracle et on n'entendait plus parler de yogourt pendant plus de 3 siècles. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence à Genève, en 1905. Un chercheur bulgare nommé Stamen Grigorov parvient à isoler la bactérie qui transforme le lait en yogourt. Et il le fait avec des échantillons provenant de son pays, la Bulgarie donc. Cette bactérie transforme en réalité le sucre du lait, le lactose, en acide lactique. Grigorov est invité à présenter ses résultats à l'Institut Pasteur à Paris. L'accueil était favorable. Un chercheur en particulier est passionné par cette bactérie, un certain Ilya Metchnikov.
Ilya Metchnikov,
yeah,
qui est
Metchnikov.
Ce monsieur?
Mais c'est notre personnage principal dans cette histoire. Un grand biologiste qui travaille sur l'inflammation et le système immunitaire. La qualité de ses travaux est reconnue par Louis Pasteur lui-même, qui lui a offert un laboratoire dans son institut. À l'image de son patron Pasteur, Metchnikov croit que les animaux en général, et les humains en particulier, sont en permanence assiégés par des microbes qui ne visent que à les détruire.
Ouais, c'est ce qui nous a valu toutes ces théories un peu hygiénistes de l'époque.
Oui, oui. On ignore à ce moment que seule une infime minorité des bactéries qui nous entourent sont délétères. Et Metchnikoff développe une étrange théorie qu'on appellera l'auto-intoxication.
L'auto-intoxication. Expliquez-nous ça.
Long mot. En gros, selon lui, le vieillissement est la conséquence d'aliments non digérés qui restent dans le côlon et qui pourrissent. Le côlon serait en effet colonisé de bactéries de pourriture. À cause de ce phénomène, le système immunitaire serait mobilisé par cette pourriture du côlon, au lieu de se battre contre de nouvelles infections externes, d'où le terme d'auto-intoxication. Selon Metchnikoff, ce principe nous fait vieillir prématurément. Nous pourrions tous vivre jusqu'à 140 ou 150 ans si on évitait cette auto-intoxication.
Alors, c'est intéressant, c'est vrai, mais pour l'époque, là, on est donc en 1905, vous l'avez dit, ce Metchnikoff me paraît très au courant des mécanismes du système immunitaire.
Ah, ça, c'est un euphémisme. En réalité, Metchnikoff est celui qui, le premier, a décrit le phénomène de phagocytose.
Alors, la phagocytose, vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots en quoi ça consiste.
Encore un mot très long. Eh bien, pour résumer, c'est le processus par lequel certaines cellules, qu'on appelle les phagocytes, vont ingérer des particules étrangères, souvent des bactéries, dans un organisme. C'est donc une des clés du système immunitaire.
Bon, alors tout ça, c'est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu nos yogourts bulgares en route.
Ah, vraiment? Et moi, j'ai l'impression que votre patience ne s'améliore pas, car vous allez le comprendre. Il y a un lien entre la découverte de la phagocytose et le succès phénoménal que vont connaître les yaourts.
Bon, je vous écoute.
Merci. Or donc, si Metchnikoff est passionné par ce jeune chercheur bulgare qui a isolé les bactéries transformant le lait en yaourt, c'est qu'il pense que le yaourt pourrait freiner l'auto-intoxication dont nous serions tous victimes. Pour être précise, il pense que les bactéries lactiques présentes dans les yaourts sont elles-mêmes des phagocytes. Et donc qu'elles peuvent nous débarrasser de ces bactéries de pourriture dans le côlon. Et un voyage en Bulgarie l'a définitivement convaincu. Sur place, il rencontre les bergers qui se disent centenaires. Non seulement ils se portent très très bien, mais ils n'ont même pas de cheveux blancs. Inutile de préciser que le régime est que très peu varié. Ces bergers mangent beaucoup, mais beaucoup de yogourt. Pour Metchnikoff, c'est clair, le yogourt est un élixir de longue vie.
Avant de continuer notre discussion avec l'agent Leslie, un point important de cette histoire. Qu'un biologiste de l'Institut Pasteur soit convaincu que l'on peut vivre jusqu'à 140 ans si l'on mange des yogourts est une chose. Que le public en soit convaincu en est une autre. Mais il va se passer quelque chose d'inattendu. En 1908, alors justement que Metchnikoff travaille sur les propriétés du yogourt, il reçoit le prix Nobel de médecine pour sa découverte du principe de la phagocytose. Un prix incontestablement mérité, mais qui aura comme conséquence de mettre sous les feux des projecteurs un biologiste qui, depuis, s'est aventuré vers des recherches un peu plus contestables. Et pour revenir à son voyage en Bulgarie, Metchnikoff a été victime d'un biais cognitif classique, le biais de confirmation. L'âge des bergers bulgares valide sa croyance. Du coup, il ne réalise pas que ces bergers, encore largement illettrés à cette époque, n'ont qu'une idée très vague de leur âge et bien entendu, pas d'état civil pour aller vérifier leur année de naissance. Par ailleurs, d'autres régions du monde, par exemple la Turquie, mangeaient évidemment beaucoup de yogourt. Et si vraiment il permettait de vivre jusqu'à 140 ans, Metchnikoff n'aurait sans doute pas été le premier à le découvrir.
Donc c'est parti. Nous sommes en 1908 et il y a Metchnikoff, le tout nouveau prix Nobel de médecine déclare, à qui veut l'entendre, que le yogourt est un élixir de longue vie et d'ailleurs... il en fait lui-même une grande consommation et espère bien vivre jusqu'à 140 ans.
Mmh, mais à l'époque, on ne trouve pas vraiment des yogourts au supermarché du coin.
Mais d'abord, on ne trouve pas de supermarché. Et ensuite, non, on ne trouve pas de yogourt au marché. En fait, on n'en trouve même nulle part. Mais rappelez-vous de ce chercheur bulgare basé à Genève qui a isolé la bactérie qui transforme le lait en yogourt, voilà. Eh bien, cette bactérie lactique va être répliquée à l'Institut Pasteur et va ouvrir la voie à la fabrication industrielle du yogourt. Et en 1912, à Paris, ouvre une boutique nommée Cure de yogourt.
Cure de yogourt. Et bientôt, alors, si je vous comprends bien, le yogourt va devenir un produit de grande consommation.
Oui, oui, oui. Mais avant cela, le 15 juillet 1916, le grand Ilya Metchnikov décède à l'âge de 71 ans. D'une insuffisance cardiaque.
Oui, donc deux fois plus jeune que l'âge espéré par Metchnikov lui-même.
Oui, même si 71 ans au début du XXe siècle était un âge très respectable. Quoi qu'il en soit, apparemment ces fameux yogourts n'ont pas eu sur lui l'effet espéré. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que son décès n'a absolument rien changé à ce nouvel engouement pour la consommation de ce lait fermenté par une bactérie lactique. Très rapidement, un sujet de l'Empire ottoman, Isaac Carasso, va ouvrir un atelier de fabrication en utilisant des ferments de l'Institut Pasteur.
Donc ces fameux ferments bulgares, en fait.
Yeah, exact. Et le succès est immense. Carasso a un fils prénommé Daniel, mais que tout le monde appelle affectueusement Danone. Il donne ce nom à ses yogourts et va bientôt passer à l'échelle industrielle avec un certain succès.
Oui, Danone, vous pouvez le dire. Alors, est-ce que le public aime le goût du yogourt ou est-ce qu'il croit encore à cet élixir de longue vie?
C'est difficile à dire. Moi, je dirais probablement les deux. Mais ce qui est certain, c'est que le décès de Metchnikov n'a pas du tout brisé le mythe. Une rumeur dit, par exemple, que Adolf Hitler, très préoccupé par sa longévité, faisait des cures de yogourt et que ces yogourts étaient préparés à base de cultures de bacilles prélevées directement dans les excréments des bergers bulgares.
Ah bah dites donc, ça fait rêver, ça.
Absolument. C'est son médecin personnel, le sinistre Théodore Morel, qui disait avec fierté d'être un disciple de Ilya Metchnikov. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais vous savez peut-être que le docteur Morel était un médecin plutôt alternatif. L'entourage de Hitler se méfiait de lui. Eh bien, à mon avis, c'est justement grâce au yogourt qu'il est devenu le médecin personnel de Hitler.
Expliquez-nous ça, ça paraît singulier.
Mais on sait que le problème de santé chronique dont souffrait Hitler était un problème digestif, de genre ballonnement et flatulence.
Bon, alors vu la monstruosité du personnage, je dirais qu'il y a quelque chose de pernicieux à s'intéresser à sa digestion.
Oui, c'est pas faux. Mais quoi qu'il en soit, comme le docteur Morel utilisait beaucoup de yogourt dans sa prise en charge, il est probable que ceci ait soulagé le Führer, ce que d'autres médecins ne parvenaient pas à faire. Ainsi, le fumeux Morel a obtenu la confiance de Hitler.
Alors, cette parenthèse assez discutable a l'avantage de nous amener à un sujet intéressant. Non, les yogourts ne font pas vivre jusqu'à 140 ans, mais oui, ils peuvent être, on va dire, intéressants pour la santé.
Oui, votre formulation est assez juste. Ils peuvent bien être intéressants pour la santé. La yogourt contient de 100 à 1000 millions de bactéries vivantes par millilitre. Et de nombreux médecins les recommandent. Par exemple, pour se reconstituer une flore intestinale après des antibiotiques. Mais les évidences scientifiques sont fragiles. D'ailleurs, l'industrie du yogourt a cherché à écrire sur le produit qu'ils sont un bienfait pour la santé. Mais l'Agence européenne de sécurité sanitaire a estimé que le niveau de preuve était insuffisant. Donc voilà où on en est. 110 ans après les allégations de Metchnikov, Le yogourt est probablement bon pour la digestion. Et si c'est votre expérience, mais alors, tant mieux. Encore un détail à ce sujet. Historiquement, le yogourt a eu un avantage énorme. Lorsque les bactéries absorbent le lactose, elles se transforment en acide lactique. Donc, un yogourt naturel n'a plus de lactose, ce qui le rend plus digeste, en particulier pour la partie importante de la population qui digère mal le lactose. Le problème est que, dans les yogourts qu'on achète aujourd'hui, les industriels ajoutent généralement du lait en poudre pour lui donner une belle texture et du coup, ils réintroduisent du lactose dans le yogourt.
Voilà qui n'aurait sans doute pas plu au grand Metchnikov.
Non, sans doute pas. Mais il sera fier d'apprendre que dans son pays d'adoption, la France, on consomme 1 million de tonnes de yogourt par an, soit en moyenne 22 kilos par habitant. En Suisse, c'est un peu moins, vers 20 kilos. Mmh. Et tout ceci est parti d'un mythe. Le yogourt est un élixir de longue vie.
Alors que si je vous comprends bien, en réalité, avant même que l'habitude alimentaire soit prise, on savait que le yogourt ne prolongeait pas vraiment la vie.
Eh oui, mais ça fait tellement plaisir de le croire. Et vous savez ce que j'en pense.
Oui, vous allez me dire qu'il est facile de faire croire l'impossible à celui qui a envie d'y croire.
Exactement. Et que l'élixir de l'envie soit accessible et même plutôt bon, croyez-moi, tout le monde a envie d'y croire.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation, Isabelle Barthes. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Play RTS et Google Podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, on vous conseille d'écouter celui qui parle de la tribu des Tazadais, une petite tribu de l'âge de pierre qui aurait subsisté dans un isolement complet durant des milliers d'années.